Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles.
Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Voilà, on va essayer de toucher à l'ultime, c'est-à-dire pour l'instant à l'incompréhensible. On va commencer par là parce que, en fait, on va utiliser un peu les connaissances qu'on a essayé de poser là depuis qu'on se connaît maintenant. C'est la première chose, c'est la naissance des étoiles. Bon, vous vous rappelez, on a parlé de ces immenses nuages de gaz, en général d'hydrogène, et puis un peu d'hélium, et puis quelques traces d'autres choses. Et au début, dès que l'univers a commencé à se créer, donc un peu plus tard, à 300 000 ans plus tard, après le début de l'univers, disons qu'il y avait ces immenses nuages de gaz qui se baladaient. Bref, à ce moment-là, heureusement qu'il y avait un truc assez magique, une nouvelle force qui était là, qui était présente et puis qui a commencé à dominer à grande échelle, c'est la gravitation. Donc on imagine très bien dans ce nuage, voilà, d'un seul coup, des petits globules par des petites turbulences, des globules de ce gaz qu'on commençait à s'effondrer. Alors, il y avait des tout petits globules, ou alors des plus gros globules, ou alors des très 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 gros globules de ce gaz, qui commençaient à s'effondrer sur lui-même. Donc, en s'effondrant, les noyaux présents commencent à se rapprocher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et à un moment donné, ces noyaux d'hydrogène, eh bien, commencent à fusionner pour commencer à fabriquer des éléments un tout petit peu plus lourds, comme de l'hélium, etc. Bref, à ce moment-là, la température s'est mise à monter terriblement et la pression s'est mise à monter aussi terriblement. Ce qui fait que d'un côté, la matière s'effondrait et de l'autre côté, en chauffant, une pression apparaissait et contenait un peu l'effondrement gravitationnel et un équilibre s'instaurait. Voilà, on avait donc là la naissance d'une étoile, cette grosse boule incandescente et très très brillante, voilà, qui est tout à fait stable. Alors, certains des globules de départ peuvent être extrêmement gros. Alors, ceux-là, ils vont avoir une durée de vie courte. Et puis, des globules, un petit peu, des petits nuages, des morceaux de nuages qui s'effondrent, de masse un peu plus légère, disons. Eh bien, là, ça s'effondre en faisant des étoiles qui vont durer un peu plus longtemps. Donc, elles ont, quoi qu'il arrive, une durée de vie. Et en plus de ça, on peut très bien imaginer un petit peu que pendant toute la vie d'une étoile, il y a une bagarre terrible entre l'effondrement dû à la gravitation et la pression qui compense tout ça. Bon, quand c'est stable, tout va bien, tout est égal, rien ne bouge, tout se crée tranquillement, l'étoile vit. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus assez de combustible, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Et là, à ce moment-là, il peut se passer des tonnes de phénomènes. C'est-à-dire que d'un seul coup, eh bien, puisqu'il n'y a plus de combustible, la pression diminue. Étant donné que la pression diminue, la gravitation va gagner, l'étoile va commencer à s'effondrer. Et par exemple, pour notre étoile, on va parler de notre étoile, à un moment donné, dans 5 milliards d'années à peu près, il n'y a plus assez d'hydrogène pour se transformer et dégager de la chaleur. Et puis, d'un seul coup, eh bien, c'est la gravitation qui gagne dans un premier temps. Donc, les couches externes de notre Soleil vont s'effondrer vers le cœur du Soleil. Et elles vont rebondir parce que dans le cœur du Soleil, la pression redevient un peu plus grande et ça recommence à compenser la gravitation. Mais en attendant, les premières couches rebondissent sur ce noyau un peu plus stable et commencent à se barrer autour. Et là, on a ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. C'est ce qui va se passer pour notre Soleil. Donc, il perd ses couches qui vont s'étendre très 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 loin, qui vont englober toutes les planètes et puis ce grand nuage va se dissiper. En son centre, le petit noyau qui reste, il s'effondre et on va appeler ça, pour notre Soleil, il va se transformer en naine blanche. Alors, ça a à peu près la taille de la Terre. Donc, imaginez, le Soleil il est gigantesque. Il devient petit, pas plus gros que la Terre. Donc, la densité, là, est énorme. Si vous prenez une petite cuillère de la matière qui existe là, elle va peser des milliers de tonnes. Donc le problème, c'est que d'un seul coup, on se retrouve avec une boule extrêmement petite, avec une densité gigantesque et une gravitation énorme. Voilà le premier problème.
Et pour compléter ce que tu viens de dire, Willy, effectivement, avant de devenir une naine blanche, lorsque l'étoile commence à manquer de son carburant principal, qui est l'hydrogène, notre Soleil et les étoiles naines en général vont terminer leur vie dans un fabuleux spectacle, un chant du cygne, si on peut dire. Enfin, fabuleux, ça dépend pour qui, parce que la fin de vie de notre étoile signifiera également aussi la fin de la vie sur Terre, s'il y en a encore, dans quelques milliards d'années, comme tu l'as dit, Willy. Et donc, comme tu le disais, l'étoile fournit lumière et chaleur grâce à la réaction de fusion qui se passe en son cœur. Mais l'hydrogène, il n'est pas illimité, comme tu l'as dit, il s'épuise. Alors le noyau de l'étoile va se compresser sous l'effet de la gravité jusqu'à ce qu'il fasse si chaud et la pression soit telle que ce sont à ce moment-là les noyaux d'hélium qui vont eux aussi se mettre à fusionner et produire d'autres éléments plus lourds. Ce qui donne un peu de répit à l'étoile puisqu'elle trouve une nouvelle source de carburant pendant à peu près, dans le cas de notre étoile, 2 milliards d'années supplémentaires. Et grâce à ce nouvel apport d'énergie, et pour des raisons encore qui nous échappent un peu, faut bien le reconnaître, les couches de gaz externes vont rebondir sur le noyau et vont être expulsées vers l'extérieur. Et alors l'enveloppe de l'étoile va commencer à se dilater. Et l'astre va gonfler, jusqu'à devenir une étoile géante qui grossira pour notre étoile, pour notre Soleil, jusqu'à l'orbite de Mars, c'est vous dire. C'est un peu, comme je l'ai dit, un long chant du cygne de notre étoile.
Les couches extérieures du Soleil vont s'effondrer sur le noyau qui devient dur. Ça va faire une explosion. D'abord une implosion, puis après une explosion. Donc les couches de ce gaz s'éloignent, forment une grosse bulle, disons. Là, on passe du Soleil à la géante rouge. Rouge parce qu'elle sera beaucoup plus froide qu'au départ. Et donc, ces couches vont se dissiper pour qu'il reste au milieu ce qu'on appelle une naine blanche. Et cette naine blanche, qui a encore de l'énergie à l'intérieur, va s'épuiser doucement. Et en s'épuisant doucement, elle ne va plus émettre de lumière visible, elle va peut-être encore émettre quelques radiations très légères, mais on arrivera à la mort d'une étoile, une mort courante, qu'on va appeler la naine brune. Voilà un peu ce qui va se passer dans notre Soleil. Et puis, comme il y a dans les galaxies des milliards d'étoiles, d'autres de milliards de galaxies, on va se retrouver avec un cimetière, disons, de naines noires. Et voici là la première mort la plus, disons, courante.
Et courant, c'est pas peu de le dire, effectivement, parce que notre étoile, notre Soleil, est finalement un astre plutôt blême, plutôt banal, avec une lueur bien pâle et anonyme dans l'immensité de l'univers. Parce que notre Soleil, eh bien, il fait partie de la catégorie des étoiles naines. Alors, elle est peut-être un tout petit peu au-dessus, c'est une naine jaune, la grande majorité des naines étant des naines rouges, donc on est un petit peu au-dessus. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas forcément bien d'être petit, au contraire. Parce que toutes les étoiles, elles ont un carburant limité, et plus elles sont grosses, plus elles vont le consommer rapidement. Et donc elles vont avoir une durée de vie d'à peine quelques centaines de millions d'années, pour les géantes bleues par exemple, et puis inversement, plus elles sont petites, plus elles vont pouvoir durer des milliards d'années, voire des dizaines de milliards d'années pour les naines rouges. Ce qui, dans notre cas, a laissé plus de répit et de temps à notre planète pour voir émerger la vie. Mais petite ou grosse, eh bien, toutes ces catégories d'étoiles sont très différentes et leurs morts sont tout aussi différentes, comme tu vas nous le dire, Willy.
Voilà, notre Soleil est une naine, est une étoile naine. En comparaison avec des étoiles qui font mille fois la masse de ce Soleil, etc. Donc voilà, on se retrouve avec des étoiles petites. Nous, on est une étoile moyenne et puis il existe des étoiles très grosses. Là, je viens de parler, si vous voulez, plutôt de la mort des étoiles banales, des petites étoiles. Voilà, Maxence, la première façon. Mais là, on arrive à un ultime qui est assez imaginable.
Effectivement, oui, parce que quand on en arrive aux géantes bleues, comme je le disais, ou aux très grosses étoiles, alors là, c'est plus du tout la même chose. C'est à peu près les mêmes raisons qui vont causer la mort de l'étoile, le manque de carburant. Mais la fin de vie de ces astres, ces monstres cosmiques, est bien plus extraordinaire et tumultueuse.
Avant d'expliquer la fin de vie de ces étoiles, on peut imaginer donc ces énormes étoiles qui sont beaucoup plus grosses que le Soleil, qui font peut-être 10 masses solaires. Et qu'est-ce qui va se passer? Le même processus, et ben, il n'y a plus assez de carburant. Les couches extérieures vont s'effondrer sur un noyau intérieur avant de rebondir extrêmement violemment. Mais alors là, la violence est telle que certaines de ces étoiles, si elles font quelques dizaines de masses solaires, on va dire, pour avoir une idée, et là, d'un seul coup, l'explosion, c'est-à-dire l'implosion des couches externes, puis l'explosion est telle que pendant un temps terriblement bref, la quantité d'énergie dégagée va être aussi importante qu'une galaxie entière. Et ça ne dure pas très longtemps. C'est une explosion énorme qu'on appelle la supernova. Là, vraiment, si par exemple l'étoile la plus proche du Soleil, c'est-à-dire Proxima du Centaure, qui se situe à 4 années-lumière, rappelez-vous, 4 années-lumière, c'est-à-dire c'est une des distances mais hallucinantes, si jamais cette étoile explosait en supernova, en un temps relativement court, on serait balayé. La violence de ces explosions est assez complètement hallucinante. Mais bon, là, c'est imaginable. On arrive à imaginer, c'est stupéfiant, mais c'est imaginable. Et donc, finalement, sur quoi a rebondi cette couche? La gravitation a été tellement forte à un moment donné, pour vaincre la pression qui existait au début, que d'un seul coup, on va se retrouver avec un cœur, le cœur de l'étoile, qui sera, mais alors là, imaginez une dizaine de masses solaires qui seraient concentrées sur une petite boule de 10 km. Donc là, ça commence à être bizarre. Comment peut-on mettre autant de matière dans une boule de à peine 10 km? On appelle ça une étoile à neutrons. On ne connaît pas la définition exacte, on aura du mal à en connaître les détails, mais en fait, ce serait possible qu'il y ait une couche de fer autour, et puis à l'intérieur, il y aurait beaucoup des protons et d'électrons qui se collent pour former carrément des neutrons. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une étoile à neutrons, et peut-être même qu'au centre de cette étoile à neutrons, il existerait des constituants encore plus petits qui s'appellent des quarks. On n'en a pas beaucoup parlé, mais bon. Voilà un petit peu. Et là, d'un seul coup, on se dit, oula, là, d'un seul coup, l'imagination commence à être un peu débordée. Comment peut-on mettre 10 masses solaires, 10 étoiles de la taille du Soleil, dans une petite boule de 10 km? Là, c'est même, commence à être extrêmement bizarre. Voilà. Ça, c'est la deuxième mort moins courante, mais assez étonnante.
En devenant des étoiles à neutrons, ces étoiles massives vont terminer leur vie en panache, en supernova, qui va expulser toutes les couches externes de son étoile dans une magnifique panache de gaz ionisé. Vous avez peut-être déjà vu ces photos du télescope Hubble. Et comme l'a dit Willy, ce sont des phénomènes tellement puissants qu'ils produisent autant de lumière que des galaxies entières pendant quelques instants. Alors, je vais juste ajouter une petite chose quant à la beauté, mais la beauté dangereuse de ces phénomènes, puisque comme tu l'as dit Willy, il vaut mieux pas se trouver dans les parages. Il s'avère que dans l'histoire de la Terre, il y a eu plusieurs extinctions de masse, et les scientifiques pensent qu'une de ces extinctions, la première, aurait été causée par l'explosion d'une supernova qui était trop proche de nous il y a environ 359 millions d'années. Et cette explosion d'étoiles aurait en tout cas contribué à la disparition de plus de 70% des espèces animales qui peuplaient la Terre à cette époque. Mais lorsque ces astres sont encore plus gros, des étoiles immensément grandes, alors là, quand l'étoile est en fin de vie et qu'elle s'effondre sur elle-même, il n'y a plus rien qui peut retenir la gravité. Et c'est ce qu'on appelle un trou noir.
Alors là, on va rentrer dans le domaine du stupéfiant. Je veux dire, on se retrouve dans un truc qui dépasse l'entendement. Ça fait quand même peut-être quelques dizaines d'années que tout le monde en entend parler, de cette fameuse étoile, le trou noir. Alors on a beaucoup d'informations sur ce trou noir. Avant d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'un trou noir, rappelez-vous quand on avait parlé d'Einstein, quand il avait établi sa théorie qu'on avait appelée la relativité générale, qui expliquait tout simplement que finalement la matière tordait l'espace autour d'elle et l'espace ordonnait à la matière la façon dont elle pouvait se mouvoir. Dans cette théorie extraordinairement folle et puis même complètement stupéfiante de sortir d'un cerveau humain comme ça pour essayer de comprendre l'univers entier, ce qui est déjà ça c'est dingue, mais en plus de ça, à travers ces équations, on pouvait prédire l'existence de beaucoup de choses. Vous avez entendu parler de la déviation de la lumière peut-être par un trou noir, enfin par une masse quelconque, par notre Soleil par exemple, ça a été vérifié, et surtout depuis dernièrement on a vérifié qu'il existait des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire que ce fameux espace qu'on avait appelé le vide entre les choses, si vous voulez, eh bien ce vide était capable de vibrer sur lui-même. Alors là déjà on est rentré dans des notions folles, comment le vide pouvait vibrer. Et c'était le cas, on a découvert ces fameuses ondes gravitationnelles. Et donc, cette théorie avait l'air de marcher super bien. Et dans cette théorie, il était tout à fait admissible qu'il existait des trous noirs, c'est-à-dire des objets complètement extraordinaires. Alors, pour reprendre un petit peu la description d'un trou noir, d'une façon vulgarisée et puis simple, en essayant de ne pas faire trop d'erreurs dans mes propos, c'est que, bon ben voilà, gars, vous avez compris, vous avez pigé que dans ces globules, lorsqu'il y a une bagarre permanente entre la gravitation qui fait effondrer et la pression qui retient l'effondrement, eh bien, à un moment donné, l'effondrement est tel que plus rien ne retient la gravitation, plus rien ne retient l'effondrement. Donc il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que toute la matière serait concentrée, mais carrément dans un point, c'est-à-dire dans une dimension nulle. Alors là, on dépasse totalement ce qu'on peut imaginer. Notre cerveau n'est pas capable de concevoir des choses pareilles. On se retrouve avec des notions qui s'appellent l'infini. Alors les mathématiciens, ils adorent ça, l'infini. Mais alors les physiciens, ils ont horreur de ça. Parce que ça ne correspond pas à quelque chose de mesurable dans la réalité. Donc là, on se retrouve dans la folie pure. C'est-à-dire, tout s'effondrerait dans un point. Bon, alors déjà, ça c'est bizarre. Mais autour de... La gravité est telle à ce moment-là, dans cette concentration, qu'elle tord complètement l'espace qui est autour, et la vitesse d'échappement de ce nouveau corps, éventuellement, dépasserait la vitesse de la lumière. Ça voudrait dire que même la lumière ne pourrait pas s'en échapper. Donc, à l'intérieur de cet effondrement, il y a de la lumière qui ne peut pas s'échapper. Il n'y a rien qui ne peut s'échapper. Alors ça dépend, vous avez des mini trous noirs dans l'univers qui auraient la taille de quasiment rien du tout. Par exemple, si je veux faire un trou noir avec la Terre, il faudrait que je la comprime dans une petite boule de 3 cm. Imaginez comprimer la Terre dans un truc de 3 cm. Imaginez aussi que notre Soleil, on veut le transformer en trou noir. Il faudrait l'écraser pour qu'il fasse une petite boule de 3 km. Mais il existe des trous noirs qui peuvent être très très gros. Par exemple, pour vous donner une idée, au centre de notre galaxie, il y a un trou noir géant qui fait 400 millions de masses solaires, mais il est énorme, il est très très grand. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire très très grand? Je veux dire, c'est cette zone autour du trou noir où plus rien ne peut s'échapper. Si vous approchez, vous allez voir une sorte de disque noir avec la lumière qui tournerait autour. On arriverait même à voir derrière le trou noir, tellement la gravité transformera l'espace, le tordra dans tous les sens. Voilà, c'est ce qu'on appellerait la taille, c'est-à-dire c'est une espèce de rond ou de sphère autour de ce point qu'on appelle une singularité. Et cette sphère, ça s'appelle l'horizon des événements, c'est-à-dire que plus rien ne peut sortir. Mais à l'intérieur, que se passe-t-il donc ?
Je voudrais ajouter une petite pensée, une chose qu'on pense un petit peu dans l'imaginaire collectif, et que je pensais moi-même d'ailleurs à tort, c'est qu'on s'imagine les trous noirs comme des objets immensément denses. Mais en fait non, pas du tout. Ils sont parfois même pour les plus gros, seulement aussi denses que l'eau. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire une distinction. Le trou noir n'est pas un objet en lui-même. Comme l'a déjà expliqué Willy, quand la matière se condense jusqu'à un point infime, qu'on appelle la singularité, c'est cette chose qui cause le trou noir. Car pour s'échapper de son attraction, il faudrait une vitesse plus rapide que celle de la lumière, ce qui est impossible. Et en fait, ce rond noir, ce n'est pas quelque chose de tangible, ce n'est pas une frontière matérielle, ce n'est pas solide, c'est la frontière dans l'espace, à partir de laquelle, lorsqu'on la franchit, eh bien pour en ressortir, il faudrait dépasser la vitesse de la lumière. Mais alors, qu'est-ce que c'est la densité? Quand je vous dis un trou noir, c'est aussi peu dense que de l'eau. Intuitivement, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, c'est le rapport entre la masse d'un corps et l'espace qu'il va occuper. Plus un objet va être lourd mais petit, plus il va être dense. Et au contraire, s'il est très léger mais qu'il prend beaucoup de place, à ce moment-là, il est très peu dense. Donc la densité d'un trou noir, c'est le rapport entre sa masse et l'espace occupé par ce rond noir, justement, cette frontière. Et cette frontière, eh bien, on en connaît une formule pour déterminer sa taille en fonction de la masse du trou noir. On peut connaître finalement la surface de ce noir. Et cette surface, eh bien, elle augmente comme le cube de la masse. Non pas le carré, mais le cube. Donc plus le trou noir sera massif, plus la taille sera d'autant plus gigantesque. Par exemple, il y a un trou noir qui s'appelle OJ-287, qui est titanesque, qui fait 100 millions de masses solaires, Et donc, il a un rayon encore plus immense de 295 millions de kilomètres de rayon. Eh bien, en faisant ce rapport tout simple, on tombe à 2 grammes par centimètre cube. C'est juste donc le double de la densité de l'eau. Et des trous noirs, il y en a des encore bien plus gros. Voilà, c'est donc tout ça pour vous dire une petite pensée finalement. Ces objets pourtant extrêmes, pourtant avec une masse énorme, sont aussi denses que de l'eau. Je trouvais ça assez poétique.
Comme tu disais, Maxence, avec justesse, mais comment on peut arriver à des tailles aussi énormes de trous noirs, quoi? Eh bien, finalement, c'est qu'un trou noir, il aspire de la matière autour. Donc, il augmente en masse et devient, on va dire, de plus en plus gros en taille, c'est-à-dire entre ce fameux point qu'on appelle la singularité qui est en plein milieu, et puis cet espace bizarroïde autour dans lequel même la lumière peut pas sortir. Ils augmentaient en masse, donc automatiquement, l'horizon s'éloignait de plus en plus. Et on arrivait à des très grands trous noirs. Rappelez-vous, le Soleil, il faudrait un trou noir de 3 km. Par contre, le trou noir géant qui existe au centre de notre galaxie, il fait plusieurs dizaines d'années-lumière, peut-être. Enfin, c'est de l'ordre de l'année-lumière, donc automatiquement, la taille est immense. Et une masse dans un volume immense, eh ben, ça fait une densité faible. Voilà un petit peu. Et en plus de ça, les masses augmentant, puisqu'il aspire, donc eh bien, cet horizon grandit de plus en plus. Mais peut-être que pour le trou noir central d'une galaxie, c'est au moment de la naissance de la galaxie que l'effondrement est tel et que le trou noir central devient très très gros très rapidement. Mais il y a une certitude absolue, c'est que l'observation, on a observé le trou noir au centre de notre galaxie qui s'appelle Sagittarius 1, c'est le centre de la galaxie. On voit des tas d'étoiles, enfin une dizaine d'étoiles tournées extrêmement rapidement autour d'un point absolument pas lumineux. Et grâce aux lois de Kepler, grâce à quelques petites lois relativement simples, on est capable de mesurer la taille de l'objet invisible qui est au milieu et qui fait tourner tout ça. Et donc là, il y a une preuve. Bien sûr, on le verra jamais puisque c'est noir. Donc le trou noir au centre de notre galaxie, on le voit pas. Mais par contre, ce qu'on a fait, on a réussi à prendre une photo du trou noir central d'une galaxie lointaine. Et là, on a vu, vous pouvez le voir sur Internet aussi, photo, hein, c'est une photo, on voit un espèce de cercle noir, on voit de la lumière qui est en train de circuler autour, comme un satellite qui orbite autour d'un objet. Là, c'est la lumière qui tourne autour de l'objet, ça fait un grand cercle, et l'espace est tellement déformé que ce qu'il y a derrière le trou noir, eh ben, la lumière passe devant. Donc, on voit bien, encore une fois, que la théorie de la relativité d'Einstein, la théorie géométrique, prévoyait tout ça, et qu'est-ce qui se passe en 2022? On en est quasi persuadé de ce que cette théorie est prédictible. Elle a permis de prévoir plein de trucs qui ont été prédits et observés. C'est toujours extrêmement brillant de voir que finalement le cerveau humain est capable, en observant, de déduire un petit peu carrément les choses les plus ultimes. Voilà, on a commencé à observer quelques événements qui commencent à dépasser largement l'entendement, surtout cette fameuse singularité au centre d'un trou noir, un point dans lequel est concentré des milliers, voire des millions de masses solaires. Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça rappelle quelque chose que l'on va introduire dans la prochaine émission, c'est qu'est-ce qui s'est passé au tout début de l'univers, et on se retrouve un petit peu dans cette même situation. Voilà, bon ben, la prochaine fois, on en parlera.
Avant de terminer cette émission, nous voulions remercier Louis qui nous a envoyé un très gentil mail et qui nous dit « Je viens de découvrir votre podcast Poussière d'étoiles qui m'accompagne tous les jours sur la route. Ce voyage dans les méandres des possibles me fascine et m'absorbe littéralement. Merci pour ces moments exceptionnels. Il m'est rarement donné de tomber sur des perles de vulgarisation scientifique et je remercie votre équipe pour le travail effectué. Simple, efficace et magique, votre chaîne gagne à être connue. Continuez à nous faire rêver. » Eh bien, merci beaucoup Louis, de la part de moi et de Willy, bien sûr. Ça nous a fait évidemment très plaisir. Et si vous avez envie de nous apporter tout votre soutien, le plus simple à faire et le mieux à faire, c'est sans doute, pour ceux qui le peuvent, aller sur iTunes et noter notre émission, ou encore mieux, laisser un petit commentaire, ça prend pas longtemps, et ça permet de mieux référencer cette émission et pour qu'elle soit tout simplement vue davantage et partagée davantage. Et puis enfin, vous pouvez toujours aller voir notre autre émission, bien sûr, Mais à quoi ça sert, ou tout simplement vous abonner à nos réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles.